Il y a quelque chose d'assez émouvant à entendre cet évangile en ce moment, dans ce moment particulier que vit l'Église, avec finalement la possibilité que nous donnent les textes de l'Écriture aujourd'hui de nous remettre face au ministère de Pierre et puis face au mystère même de l'Église. Et précisément, beaucoup de commentateurs y vont de leurs petites remarques et de leurs considérations, qui sont des considérations de ce monde, des considérations bien mondaines et parfois politiques. Et il y a évidemment quelque chose de desséchant et d'appauvrissant à s'enfermer dans ces commentaires, ces suppositions, ces calculs. L'Église est bien une réalité humaine. Elle a bien une dimension politique au sens où elle est présente dans la cité, mais précisément les lectures de ce jour nous montrent à quel point elle n'est pas que cela, elle est bien plus que cela. Elle est une réalité poreuse, perméable à la vie du ciel, à la vie surnaturelle. Il y a quelque chose de l'Église qui n'est pas de nous. Il y a quelque chose qui ne nous replie pas dans la pesanteur et l'inertie de notre humanité blessée et de nos considérations humaines. Et cette semaine, nous avons fêté la Sainte Athanase et nous sommes cette année dans le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Le Concile de Nicée, c'est un rassemblement qui a eu lieu donc en 325, de 170 à 220 évêques, convoqués par l'empereur Constantin, et qui, vous allez voir, nous dit bien des choses importantes peut-être sur ce qu'est l'Église. Mais au départ, le Concile de Nicée nous parle du Christ pour répondre à quelqu'un de très méchant, qu'il ne faut pas du tout admirer, qui s'appelle Arius. Voilà. Arius était prêtre à Alexandrie et il s'opposait à son évêque Alexandre d'Alexandrie. Et Arius contestait la divinité de Jésus. Il avait précisément une sorte de considération quasi politique et humaine et mondaine de Jésus. Arius était très influencé par la pensée platonicienne. Et la manière avec laquelle il se représentait les choses était vraiment issue du monde païen. C'était un chrétien, mais qui était en fait encore très imprégné d'une pensée non chrétienne. Et cette représentation, c'est que au-dessus de tout, il y avait le Père, puis un peu en dessous le Fils, puis un peu en dessous les gueux, quoi, les bouseux, les baptisés, les sans-dents, comme disait un autre, d'une certaine manière, cette représentation du monde par étage, par palier, faisait que plus on descend, plus ça se dégrade, si vous voulez. Et puis plus on monte, plus on arrive au monde des idées, au paradis, au ciel, aux réalités surnaturelles, etc. Les philosophes ici sauront reconnaître l'origine platonicienne de cette pensée. Et alors ça a même donné cette idée selon laquelle le souverain d'un peuple, que ce soit l'empereur, le roi, etc., vient en quelque sorte se placer, se loger dans cette hiérarchie du réel. Donc, on pouvait mettre le souverain Emmanuel Macron entre Jésus et nous, vous voyez, comme si, enfin, dans cette représentation. C'est un cauchemar. Cette manière de se représenter les choses dans laquelle Jésus n'est pas vraiment Dieu et vraiment homme, il est vraiment homme, il a quelque chose de divin, mais il n'est pas vraiment Dieu, vous voyez ? Vous avez remarqué, il y a quelque temps, que dans notre manière de dire le « je crois en Dieu » quand nous le disons en français, avant nous disions « de même nature que le Père ». Vous vous souvenez ou vous avez déjà oublié ? Voilà. Et depuis quelque temps, nous disons consubstantiel au Père. Consubstantiel. Et quand on dit consubstantiel, qu'est-ce qu'on dit ? De même de la même substance. Mais attention, pas au sens où nous le croyons peut-être. Ici, dans cette église, a priori, il semble que nous soyons tous de nature humaine. Peut-être y a-t-il quelques exceptions, mais en tout cas, nous sommes tous de nature humaine. Et nous sommes de nature humaine, mais nous sommes chacun des personnes humaines qui sommes de nature humaine. Lorsque nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous parlons de personnes divines, mais qui sont de la même et unique substance divine. Il n'y a pas autant de nature divine qu'il y a de personnes divines. Nous, il y a autant de nature humaine, nous partageons la nature humaine, mais nous sommes pleinement de nature humaine, chacun séparément. Le mot grec que vous allez pouvoir placer dans les dîners, ça va être très chic, du Concile de Nicée, c'est « homo ousios », de même substance, eh bien, c'est une manière de nous dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule, numériquement une seule substance divine. Et donc, Jésus, de ce fait, le Fils n'est pas moins divin que le Père, et l'Esprit Saint n'est pas moins divin que le Père et le Fils. Ils sont chacun pleinement, totalement de la même substance divine. Nous ne sommes donc pas polythéistes et nous croyons qu'il y a une seule substance divine en trois personnes. Et partant de là, cela veut dire que le Christ, Jésus, a une nature humaine parfaitement assumée. Jamais d'ailleurs la nature humaine a été aussi parfaitement vécue que le Fils de Dieu. Jamais une nature humaine, une humanité n'a été aussi ajustée au projet divin. Mais cela veut dire aussi que l'Église n'est pas qu'une réalité humaine. L'Église, greffée au Christ, le corps du Christ, incorporé au Christ, reçoit du Seigneur Jésus une qualité qu'on appelle une note de sainteté divine. Il y a dans l'Église quelque chose de la vie du Christ qui bien se communique à tous les membres. Et nous ne sommes pas simplement un club d'adhérents, de gens qui épousent une cause ou d'anciens combattants qui entretiennent le souvenir de Jésus. Notre lien physique au Christ fait que le baptême nous constitue véritablement comme son corps. Et cela veut dire que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, donne à l'Église de prendre part à sa divinité. Il y a une porosité, il y a une perméabilité, il y a la vie de l'Esprit du Christ qui vit dans l'Église. Alors certes, l'Église demeure bien humaine, avec nos lourdeurs à nous, notre péché à nous, avec même des pontifs ou des pasteurs qui ont pu être des mercenaires et des prédateurs, mais cela n'enlève rien à la sainteté du mystère de l'Église, qui est la prolongation du Christ sur terre, disait le cardinal Danielou. Et c'est-à-dire qu'il y a dans l'Église une réalité qui va bien au-delà de ce que nous pouvons mesurer avec nos simples yeux de pauvres humains mortels. Il y a une réalité de la vie de Dieu qui se déploie, qui se déverse par l'Église, dans l'Église. Et il y a dans cette double nature du Christ quelque chose dont nous vivons précisément. Si le Christ, tel qu'Arius le disait, était une sorte de réalité intermédiaire entre Dieu et les hommes, alors nous n'aurions pas cette part de vie divine, nous n'aurions pas cette adoption filiale, nous n'aurions pas cette vérité et plénitude de vie divine qui nous serait communiquée précisément. Nous ne serions pas pleinement divinisés, comme le disent les pères de l'Église. Nous serions tout juste un peu plus rehaussés par une forme d'adhésion morale à quelque chose qui nous rendrait peut-être un peu meilleurs moralement. Mais notre lien au Christ n'est pas un lien moral, c'est un lien qui nous incorpore à lui. C'est un lien qui, dans notre ADN, pourrions dire, dans notre ontologie, vient nous saisir. cardinal de Bérulle disait que nous sommes du coup des humanités de surcroît, d'autres humanités agrégées à l'humanité du Christ. Que notre humanité défaillante est comme ajoutée à l'humanité du Christ et comme par propagation de la vie du Christ qui nous est inoculée en quelque sorte, nous relève et nous sauve. Ainsi, cette affirmation du Concile de Nicée était décisive pour ne rien perdre du dépôt de la foi. Et peut-être que cela peut vous paraître lointain et des détails, mais bien des chrétiens sont morts martyrs pour défendre cette affirmation si importante. Et je ne développerai pas, mais cela a même eu des conséquences considérables sur l'histoire de l'Europe et sur ce que nous sommes, parce que au moment où Clovis a demandé le baptême, il eut été beaucoup plus intelligent pour lui de se déclarer arien, ce qui était le cas de la majorité des rois barbares de son époque. Parce qu'ainsi, il se serait comme presque auto-divinisé et placé dans cette hiérarchie du réel. Il aurait en quelque sorte acquis une forme de légitimité spirituelle en se glissant dans cette échelle de représentation et en se mettant ainsi au-dessus des peuples. Et Clovis, en faisant le choix d'une foi non arienne mais nicéenne, comme on dit, a fait un choix de vérité qui a en fait sauvé la chrétienté occidentale, qui était en train de basculer totalement du côté de l'arianisme. Ainsi, frères et sœurs, il nous faut, fort de cela, entendre ce que nous recevons d'une lecture comme celle que nous avons entendue dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez, cette vision mystique de Saint Jean, dans laquelle il nous donne à voir la part invisible de la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez le film Matrix. Si vous connaissez le film Matrix, vous comprenez, il y a cette autre part du réel qui échappe à nos yeux. Eh bien, l'Église, telle que Saint Jean nous la donne à voir en nous retranscrivant cette vision, il nous donne accès, en quelque sorte, à tout ce qui se trame, à tout ce qui se joue, au combat spirituel invisible que l'Église connaît et à la louange invisible des créatures invisibles qui, dans le ciel et la gloire éternelle de Dieu, acclament le Créateur. Et si cet invisible nous est donné en représentation, en image, si nous y avons accès, c'est pour que nous y prenions part. Et ce que nous faisons dans l'Eucharistie, c'est exactement ce que nous voyons représenté dans le livre de l'Apocalypse. Nous acclamons celui qui est digne, l'agneau de Dieu immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, ça vous dit quelque chose? Eh bien voilà, louange, honneur, gloire, souveraineté pour les siècles des siècles. Le culte de l'Église, la liturgie, n'est pas d'abord un rassemblement dans lequel on se masse le nombril et dans lequel on étale notre sentimentalité. C'est d'abord un culte rendu à Dieu, c'est le corps du Christ réuni à sa tête qui acclame le Seigneur victorieux et qui se tourne vers le Père pour être des adorateurs en esprit et vérité. Bien souvent, l'appauvrissement de nos liturgies, on finit par occulter la part du mystère divin. Les saints mystères, comme dit notre propre liturgie, quand nous la célébrons en latin, nous disons « Au début de la célébration des saints mystères, reconnaissons que nous sommes pécheurs. » Et tout à l'heure, nous dirons « Mystère de la foi, mysterium fidei ». C'est-à-dire, les mystères, ce n'est pas des énigmes, c'est cette part de cette réalité invisible à laquelle nous sommes associés. Voilà ce que fait l'Église sur cette terre. Elle maintient ouverte une brèche sur le ciel. Elle met le pied dans la porte pour que le genre humain ne referme pas cette porte et ne se claquemure pas dans un monde à horizon simplement humain. Nous vivons à ciel ouvert, nous vivons devant le trône de l'agneau victorieux. Nous participons et nous sommes associés à la louange des anges et des saints. Et si nous avons un culte que nous rendons aux saints, c'est parce que nous sommes dans ce que nous proclamons la communion des saints. Nous sommes reliés par un lien vivant de communion à toute cette vaste immensité du corps du Christ qu'est l'Église, qui ne se réduit pas à l'élément statistique de ce que nous pouvons comptabiliser de pratiquants à l'instant T, à un moment donné, de l'histoire humaine sur une portion de la terre. L'Église est cette grande et vaste réalité du corps du Sauveur. Et c'est pour cela qu'il nous faut prier très fort pour que nos cardinaux soient des saints et que peut-être certains se convertissent, pour qu'ils soient véritablement pour eux capables de laisser l'Esprit Saint agir en eux, qu'ils ne posent pas un acte purement humain, qu'ils soient à la hauteur de ce mystère divin, qu'ils soient des serviteurs de la grâce et de la puissance de Dieu. Et si certains cardinaux s'expriment dans la presse, mitraillez-les de prières pour qu'ils se taisent et qu'ils prient. Il nous faut invoquer l'Esprit Saint, qui est l'âme de l'Église, pour que le Seigneur continue de faire son œuvre au travers de l'histoire, car l'enjeu est grand. Jésus dit « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Ce que veut faire le Seigneur, c'est qu'il veut que nous soyons les relais et que nous portions ce désir nous-mêmes que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun d'entre eux ne se perde. L'enjeu est grand, c'est qu'il s'agit de répandre, que la grâce de Dieu se répande par tout l'univers, que la miséricorde et la consolation du ciel viennent essuyer les larmes de cette terre, que la vie divine, la charité du Très-Haut habitent le cœur des croyants et rejoignent tous les hommes. C'est pour cela qu'un baptisé n'est vraiment pleinement baptisé que lorsqu'il laisse passer la grâce, lorsqu'il est lui-même porteur de cette mission apostolique de l'Église, lorsqu'il témoigne du Seigneur vivant. Que le Seigneur nous en fasse la grâce et qu'il donne à nos cardinaux de se rappeler que Jésus est vrai Dieu et vrai homme et qu'ainsi l'Église n'est rien d'autre que ce que le Seigneur lui-même s'est donné, à ce par quoi il a voulu pourvoir à l'extension du royaume pour que tous les hommes connaissent la joie du salut.